Chapitre 3 Versets 1 à 11 L'effet pratique d'être ressuscité avec Christ. Après nous avoir mis en garde contre la religion du monde que nous avons laissée derrière nous par notre mort avec Christ, l'apôtre exhorte maintenant les croyants à entrer dans les bénédictions positives qui sont la part de ceux qui sont ressuscités avec Christ. Les exhortations sont d'abord en rapport avec le nouveau monde de bénédictions ouvert aux croyants, versets 1 et 2, puis avec la nouvelle vie, versets 3 à 7, et enfin avec le nouvel homme, versets 8 à 11. Versets 1 et 2 Les choses qui sont en haut. Citation de l'Écriture. Si donc vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. Fin de citation. Premièrement, l'apôtre parle de la nouvelle sphère en contraste avec l'ancienne. Quand Christ est ressuscité d'entre les morts, il est clair que la mort n'avait plus de pouvoir sur lui. Et le croyant, étant ressuscité avec Christ, est libéré de la mort comme châtiment du péché. Il y a cependant encore une autre grande vérité présentée en Christ ressuscité, à savoir qu'une nouvelle scène avec de nouvelles relations est ouverte aux croyants. Comme homme ressuscité, Christ pouvait dire à Marie « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur « Je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean 20, verset 17. Après sa résurrection, le monde ne l'a plus vu, et les siens ne devaient plus le connaître selon la chair, mais en relation avec le Père et dans sa nouvelle position dans le ciel. Bien qu'il ait affaire avec la vie ici-bas et avec ses relations au cours de son passage à travers le temps, le croyant, en tant que ressuscité avec Christ, est introduit dans de nouvelles relations en rapport avec la scène d'en haut où Christ est allé. Nous sommes alors exhortés à chercher les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Dans ce passage de l'Épître, les choses qui sont en haut sont mises en contraste avec celles qui sont sur la terre. Ce monde est occupé par de vastes projets par lesquels l'homme cherche, par sa propre volonté et sa propre puissance, à améliorer l'état du monde et à introduire un millénium sans Dieu et sans Christ. Regardant en haut, nous voyons que le dessein de Dieu est d'introduire par Christ un univers de bonheur dont Christ sera la tête et le centre. Dieu a donné l'assurance de l'accomplissement de son propos en exaltant à sa droite celui que les hommes ont crucifié. Christ sur la croix est le témoignage clair de l'échec de tous les projets des hommes. Christ dans la gloire, à la droite de Dieu, est le surgage que Dieu accomplira son propos. Les choses qui sont en haut sont toutes ces choses qui dépendent de Christ à la droite de Dieu et que Dieu s'est proposé pour la gloire de Christ et la bénédiction de l'homme. C'est à ces choses que nous devons penser et non pas aux choses passagères de la terre. Ce passage de l'Épître indique clairement qu'en haut il y a le repos, là où il n'y aura plus de labeur, car Christ est assis à la droite de Dieu. En outre, il y a la puissance qui peut soutenir tout l'univers de bonheur, car Christ est dans le lieu de la puissance, à la droite de Dieu. Ensuite, le psaume 16 ne nous dit-il pas qu'à la droite de Dieu, il y a un rassasiement de joie et des plaisirs pour toujours? Il peut y avoir des joies sur terre, mais la plénitude de joie, ou le rassasiement de joie, se trouve à la droite de Dieu. Sur terre, la joie s'épuise. Dans le ciel, elle est entière. Sur terre, les plaisirs ne sont que pour un temps. Au ciel, ils sont pour toujours. Cela ne fait-il pas partie des choses qui sont en haut, auxquelles nous sommes exhortés à penser plutôt qu'aux choses qui sont sur la terre? L'apôtre ne parle pas des choses qui sont dans le monde, mais des choses qui sont sur la terre. Les choses mondaines peuvent inclure beaucoup de choses qui sont absolument mauvaises. Arrêter ses pensées sur de telles choses souillerait. Les choses terrestres comprennent des choses naturelles et des relations naturelles qui, à leur place, ne sont pas mauvaises, mais qui, si nos esprits en sont trop occupés, gâteront notre goût pour les choses célestes. versets 3 et 4, la vie du croyant cachée en Christ. Citation de l'Écriture. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, qui est notre vie, sera manifesté, alors vous aussi, vous serez manifestés avec lui en gloire. Fin de citation. L'apôtre parle de la nouvelle vie en contraste avec l'ancienne. Dans les deux premiers versets du chapitre, une scène entièrement nouvelle nous est ouverte, la sphère de la résurrection. Et tout dans cette belle scène est hors d'atteinte de la mort. Les choses de la terre, même si elles sont correctes en elles-mêmes, sont sujettes à la mort et aux limitations du temps. Le chrétien est non seulement mis en relation avec cette nouvelle scène, mais il possède aussi une vie nouvelle capable de jouir des scènes célestes et des relations éternelles. C'est de cette nouvelle vie que l'apôtre parle maintenant. Car comment pourrions-nous arrêter nos pensées aux choses d'en haut sans une vie capable d'apprécier ces choses? La vie du monde consiste à jouir des choses du monde telles qu'elles sont. Christ, qui est la vie du croyant, est caché au regard du monde, et le monde ne peut donc pas voir la source ni le ressort de la vie chrétienne. On peut dire que Christ est cette vie, car en Christ, dans la gloire, nous voyons la présentation de la vie du croyant dans sa propre sphère. Cette vie se manifestera dans toute sa félicité quand Christ apparaîtra et que nous apparaîtrons avec lui en gloire. On verra alors ce qui a soutenu le croyant dans sa vie quand il traversait le monde durant l'absence de Christ. Versets 5 à 7. Citation de l'Écriture. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, les affections déréglées, la mauvaise convoitise et la cupidité qui est de l'idolâtrie, à cause desquelles la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance, parmi lesquels vous aussi vous avez marché autrefois, quand vous viviez dans ces choses. Fin de citation. Après avoir parlé de la vie chrétienne, l'apôtre la met en contraste avec les choses qui font la vie du monde. Il a déjà dit que nous sommes morts à la religion du monde. Maintenant, il voudrait que nous appliquions la mort aux activités de la chair en nous. Nous avons à retrancher ce qui, en nous, nous rattacherait à la vie du monde. Si un ange passait à travers ce monde, il ne serait pas contaminé par le monde. Rien dans l'ange ne serait là pour répondre à ses séductions. Avec nous, il y a la chair, une nature qui répond rapidement aux attractions du monde et aux plaisirs du péché. Nous sommes donc exhortés à retrancher et à refuser les différentes formes sous lesquelles la chair se manifeste, les convoitises, la cupidité et l'idolâtrie de la chair. À moins que nous bridions nos désirs, ils nous conduiront à poursuivre quelque objet particulier avec un intérêt si absorbant que celui-ci deviendra une idole mettant Dieu de côté. Le chrétien est appelé à mortifier ses membres de la chair. La question de la chair a été résolue à la croix. Le croyant a affaire avec les différentes formes sous lesquelles cette chair, qui est encore en lui, cherche à se manifester. Les membres dont parle l'apôtre dans ce passage ne peuvent guère désigner les membres du corps. Loin de mortifier ces membres de notre corps, il est dit en Romains 6 de livrer nos membres à Dieu comme des instruments. Les membres, ici, semblent être toutes ces choses profanes par lesquelles la chair s'exprime. De même que les membres effectifs du corps sont les instruments pour le service du corps. C'est à cause de la tolérance de ces membres de la chair que la colère de Dieu viendra sur les fils de la désobéissance. En refusant la grâce de Dieu qui voudrait ôter leurs péchés, ils se mettent sous la colère de Dieu qui s'occupe d'eux à cause de leurs péchés. Ces croyants avaient marché autrefois dans ces choses dans lesquelles ils trouvaient leur vie. Leur mauvaise marche était alors parfaitement en accord avec leur vie non régénérée. Maintenant, comme chrétien, l'apôtre nous exhorte à marcher en accord avec la nouvelle vie. Versets 8 à 11. Le nouvel homme. Citation de l'Écriture. Mais maintenant, renoncez, vous aussi, à toutes ces choses. Colère, courroux, malice, injure, paroles honteuses venant de votre bouche. Ne mentez point l'un à l'autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions et ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, où il n'y a pas grec et juif, circoncision et incirconcision, barbare, scythe, esclave, homme libre, mais où Christ est tout et en tous. Fin de citation. Troisièmement, après avoir parlé de la vie nouvelle, en contraste avec l'ancienne, l'apôtre se met à parler du nouvel homme, en contraste avec le vieil homme. Les mots dont il est parlé au verset 8 sont en rapport avec l'esprit et les pensées plutôt qu'avec le corps. La colère, le courroux, la malice, les injures, les paroles honteuses, tout cela suppose des pensées opérant d'une mauvaise manière, tandis que la liste des péchés du verset 5 impliquait des actes effectivement mauvais en rapport avec le corps. Ici, ce ne sont pas les actes mauvais, mais la façon violente et corrompue avec laquelle la chair se manifeste en commettant ces mauvais actes. On doit renoncer à toutes ces choses comme faisant partie du caractère du vieil homme et de ses œuvres et comme tout à fait incompatible avec le nouvel homme. Ici, donc, l'apôtre fait ressortir le contraste entre le vieil homme et le nouvel homme. Ces expressions ne se rapportent pas à des individus particuliers. Elles servent à décrire différentes catégories de personnes ayant chacune certaines caractéristiques. Dans le langage ordinaire, on parle de l'homme noir et de l'homme blanc, non pas en se référant à un quelconque individu particulier, mais comme décrivant différentes races d'hommes. En outre, l'expression « nouvel homme » ne signifie pas un homme récent, comme lorsqu'on parle d'un nouvel homme affecté à un poste particulier. Elle implique une catégorie d'hommes qui est nouveau dans le sens d'être tout à fait différent du vieil homme. Ce nouvel homme est renouvelé, un mot qui implique qu'il progresse en force chaque jour. Cette nouvelle force journalière se trouve dans la connaissance de celui qui a créé le nouvel homme. À mesure que nous croissons dans la connaissance de Christ, nous devenons comme Christ, celui qui est l'expression parfaite de la nouvelle catégorie d'hommes. Quand Christ est venu dans le monde, il y avait aux yeux de Dieu quelqu'un qui, moralement, a présenté une nouvelle catégorie d'hommes, un homme céleste, avec de nouvelles caractéristiques. L'introduction dans cette nouvelle catégorie d'hommes a rendu moralement ancien ou vieux le premier homme. Le nouvel homme est renouvelé selon l'image de celui qui l'a créé. Plus nous avons Christ devant nous, celui en qui l'homme nouveau est parfaitement exprimé, plus nous devenons comme Christ et ainsi nous revêtons pratiquement le nouvel homme en manifestant les caractères de ce nouvel homme. Dans cette nouvelle catégorie d'hommes, il n'y a pas de distinction nationale telle que grec et juif, il n'y a pas de distinction religieuse comme la circoncision et l'incirconcision, ni de distinction sociale entre les ignorants et les gens instruits, les esclaves et les hommes libres. Le vieil homme peut en effet inclure toute une variété d'hommes, tant juifs que gentils, mais tous sont marqués par certaines caractéristiques de mal. Le nouvel homme est une catégorie d'hommes dans lequel Christ est tout et en tous. Christ est tout comme le modèle parfait et le but parfait, et Christ est en tous pour former le caractère du nouvel homme. Ainsi, en relation avec la résurrection de Christ et avec le fait que le croyant est ressuscité avec Christ, il nous est présenté une nouvelle scène, la sphère de la résurrection en contraste avec la terre, versets 1 et 2, la vie nouvelle en contraste avec l'ancienne, versets 3 à 7, et le nouvel homme en contraste avec le vieil homme, versets 8 à 11. Du verset 12 au verset 6 du chapitre 4, Christ dans le croyant. Nous avons vu que le grand objet de l'Épître est de présenter les gloires de Christ, la tête de l'Église, afin que le caractère de la tête soit exprimé dans son corps. Après avoir exposé l'application pratique de la grande vérité que les croyants sont morts et ressuscités avec Christ, du verset 20 du chapitre 2 au verset 11 du chapitre 3, l'apôtre nous exhorte maintenant à revêtir le caractère de Christ. Dans la gloire à venir, nous serons parfaitement comme Christ, dans une scène où chacun est comme Christ. Maintenant, le grand privilège du croyant est d'exprimer le caractère de Christ dans un monde où les hommes ne sont pas du tout comme Christ. En outre, ce nouveau caractère doit être manifesté non seulement dans certains cercles particuliers, en de certaines occasions, mais dans tous les cercles où le chrétien est appelé à vivre. Naturellement, l'apôtre place d'abord devant nous l'expression du caractère de Christ dans le cercle chrétien, versets 12 à 17, puis dans le cercle de la famille, versets 18 à 21, puis dans le cercle social, versets 22 au verset 1 du chapitre 4, et enfin le caractère de Christ doit être exprimé avec ceux du dehors, versets 2 à 6 du chapitre 4. Versets 12 à 17, Christ exprimé dans le cercle chrétien. Versets 12 et 13. Citation de l'Écriture. Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns aux autres, si l'un a un sujet de plainte contre un autre, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Fin de citation. L'apôtre base toutes ses exhortations sur la position merveilleuse dans laquelle le croyant se tient devant Dieu. Nous sommes des élus de Dieu, saints et bien-aimés. En tant qu'élus, nous avons été choisis avant la fondation du monde pour la bénédiction céleste selon le propos de Dieu. En tant que saints, nous sommes mis à part de ce présent siècle pour Dieu. En tant que bien-aimés, nous sommes les objets des soins de Dieu à chaque étape de notre voyage à travers ce monde. Éphésiens 1, verset 4. Selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour. Jean 17, verset 6. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Verset 11. Et je ne suis plus dans le monde, et ceux-ci sont dans le monde, et moi je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Cette position privilégiée devant Dieu ne pourra jamais nous être assurée par notre marche et notre vie pratique. Notre position de bénédiction est entièrement le résultat de la grâce de Dieu qui nous est parvenue par Christ. Toutefois, si la marche ne peut pas assurer la position de privilège, la position doit néanmoins et sûrement gouverner notre marche. Ces bénédictions ne nous présentent-elles pas la position de Christ quand il était dans ce monde? N'était-il pas l'élu de Dieu, celui qui était choisi d'entre le peuple dans un sens très particulier? De même, il était aussi, dans le sens le plus absolu, le Saint. Et à deux reprises, la voix du ciel a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Si par grâce nous sommes amenés dans la même position, il s'ensuit que nous devons marcher comme lui a marché, et manifester ses caractères. Il est remarquable que dans les prières, la doctrine et les exhortations de cet épître, il n'est guère ou pas du tout fait référence à des dons spéciaux, ni à l'exercice du ministère public dans le service du Seigneur. Ces sujets, d'une importance profonde, ont leur place dans d'autres épîtres. Ici, le grand sujet est ce qui est encore plus important, la vie spirituelle et le caractère du chrétien. Voilà le grand sujet. Ce que nous sommes est beaucoup plus important que ce que nous faisons. Nous sommes enclins à nous évaluer l'un l'autre d'après notre zèle et notre activité devant les hommes, plutôt que par notre vie spirituelle et notre caractère devant Dieu. Si un croyant a un don et une capacité, il est relativement facile d'être zélé et actif en public. Mais on a besoin d'une plus grande grâce pour vivre Christ dans l'intimité calme et plus privée de la vie de tous les jours. Être un travailleur énergique parmi le peuple du Seigneur ou dans le monde peut être de plus grande apparence. Mais être un homme spirituel manifestant le caractère de Christ dans la douceur et l'humilité, dans la patience et le support, aura plus de poids et sera d'une plus grande valeur aux yeux de Dieu. L'ornement d'un esprit doux et paisible est d'un grand prix aux yeux de Dieu. 1 Pierre 3, verset 4. Être une Marthe avec une bonne dose d'activité trépidante est facile. Être une Marie assise calmement aux pieds de Jésus exige une spiritualité bien plus profonde. Non pas qu'un croyant paisible et spirituel ne sera pas actif dans les bonnes œuvres, mais la vie précédera les œuvres et sera toujours la première préoccupation. Marie, qui a été louée par le Seigneur pour avoir choisi la bonne part, a également été félicitée pour sa bonne œuvre. Mais la bonne part, Luc 10, verset 42, est venue avant la bonne œuvre, Matthieu 26, verset 10. Le résultat de la bonne part choisie par Marie, s'asseoir aux pieds de Jésus pour écouter sa parole, a été la formation en elle du caractère et des grâces de Christ. Les exhortations qui suivent ici, très heureusement, présentent ce caractère de Christ, marqué par la grâce, versets 12 et 13, l'amour, verset 14, et la paix, verset 15. Les sept premières exhortations énoncent toutes les différentes façons dont la grâce de Christ est exprimée. La miséricorde est la grâce envers ceux qui, d'une certaine façon, peuvent dépendre de nous et qui sont dans un besoin particulier. La bonté ne signifie pas nécessairement le fait de répondre à un besoin effectif ou l'octroi de bienfaits à quelqu'un qui dépend de nous. C'est plutôt le fait d'exercer un ministère pour le bonheur et le réconfort d'autrui sans qu'ils aient de besoin particulier. L'humilité se rapporte à soi-même. La douceur se rapporte aux autres. L'humilité pense peu à soi, ou même pas du tout. La douceur fait place aux autres. Ces deux qualités excellentes sont illustrées par le verset de Philippiens 2, verset 3, que, dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même. L'homme humble s'anéantit lui-même. L'homme doux considère les qualités des autres plutôt que les siennes. La longanimité se rapporte davantage aux circonstances éprouvantes. Se supporter les uns les autres se rapporte aux personnes qui sont un sujet d'épreuve. Nous disons à juste titre que quelqu'un montre un grand support quand il est en présence d'une provocation. Il peut s'agir d'une provocation d'ordre général, quelque chose qui requiert la patience de tous. Il peut aussi s'agir de torts personnels qui donneraient une bonne raison de se plaindre de la part de celui ayant subi le tort. Ces torts personnels requièrent le pardon. La mesure du pardon est comme Christ nous a pardonné. Verset 14. Citation de l'Écriture. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Fin de citation. Ce verset, littéralement, peut s'exprimer ainsi. En plus de toutes ces choses, ajoutez l'amour. Ce n'est pas comme si l'amour était une qualité à part au-dessus de toutes les qualités précédentes, mais c'est qu'il faut ajouter l'amour à la miséricorde, à la bonté et à toutes les autres qualités. Toutes ces activités bénies du nouvel homme ont leur source dans l'amour. Si nous montrons la miséricorde ou la bonté ou la longanimité ou le pardon, cela doit provenir de ce que nous aimons notre frère. L'amour est le lien de la perfection. L'apôtre parle de cette nouvelle catégorie d'hommes chez qui seul on trouve la perfection. Dans l'ancienne catégorie, le vieil homme, les hommes sont haïssables, se haïssant l'un l'autre. Chez le nouvel homme, tous sont liés ensemble dans les liens éternels de l'amour. Quelqu'un a dit « Les liens qui sont rivés dans l'amour de Christ et dans les travaux pour Christ survivent au changement du temps » et lie la famille de Dieu dans les demeures de l'éternité. Verset 15. Citation de l'Écriture. Et que la paix du Christ, à laquelle aussi vous avez été appelés en un seul corps, préside dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Fin de citation. En Christ, nous voyons la nouvelle catégorie d'hommes présentée en perfection. Il était descendu du ciel, mais il parlait de lui-même comme du Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jean 3, verset 13. Il marchait au milieu de l'agitation de la terre, mais vivait dans le calme du ciel. Nous traversons un monde où il n'y a pas de paix. Politiquement, c'est un monde de guerre. Socialement, économiquement et religieusement, tout est effervescence et bouleversement. Le privilège du chrétien est de passer à travers ce monde comme Christ, avec le calme et la paix du ciel dans le cœur. Quelles que soient les circonstances par lesquelles il est appelé à passer, il a ses pensées aux choses d'en haut et sera conservé dans la paix dont Christ jouissait. En outre, la paix doit non seulement présider dans nos cœurs, mais elle est à réaliser dans la compagnie des chrétiens, car c'est pour cela que nous avons été appelés en un seul corps. L'unité du corps requiert la paix entre les membres pour qu'ils croissent de l'accroissement de Dieu. En outre, s'il y a la paix dans le cœur, il y aura de la reconnaissance envers Dieu. Étant ainsi marqué par la grâce, l'amour et la paix, le beau caractère de Christ sera reproduit chez les siens. Versets 16 et 17. Citation de l'Écriture. Que la parole du Christ habite en vous richement, en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. Et quelque chose que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Fin de citation. Le caractère de Christ, trouvé dans les saints selon les versets 12 à 15, prépare pour le service de Christ selon les détails des versets 16 et 17. Dans ces versets, l'apôtre parle d'enseignement, d'exhortation, de chant, d'œuvre et d'action de grâce. Il faut bien comprendre le verset 16 avec la bonne ponctuation. Il y a trois exhortations distinctes. Tout d'abord, que la parole du Christ habite en vous richement, puis, en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre, enfin, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. La première exhortation est individuelle. Chacun de nous doit être instruit dans la pensée de Christ. Puis, ayant la pensée de Christ pour nous-mêmes, nous avons à nous enseigner et nous exhorter l'un l'autre. Ici, l'exhortation ne semble pas viser le ministère public de quelqu'un ayant un don spécial pour enseigner, mais plutôt l'enseignement et l'exhortation mutuelle entre individus comme résultat de ce que chacun a la parole du Christ, s'étant assis à ses pieds et ayant écouté sa parole. La troisième exhortation donne l'attitude qui convient pour la louange de Dieu. Si nous chantons à Dieu, ce devrait être avec la grâce dans nos cœurs, non pas simplement avec la mélodie sur nos lèvres. Au verset 17, nous arrivons au « faire ». Tout ce que nous faisons, en parole ou en acte, doit l'être au nom du Seigneur Jésus. Quelle règle de vie simple, mais qui nous sonde. Quelle belle vie, quand rien ne se dit, ni ne se fait, sinon ce qui convient à ce nom saint et béni. Combien de questions qui nous embarrassent dans la vie quotidienne seraient résolues d'un coup par ce test simple « Puis-je le faire ou le dire au nom du Seigneur Jésus ?» L'exhortation finale est de rendre grâce par lui à Dieu le Père. Au milieu de toutes les circonstances, nous avons à rendre grâce. Lorsque le Seigneur était rejeté par Israël, il pouvait dire « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre. » Et Paul pouvait chanter dans la prison intérieure, les pieds fixés dans les fers. Nous apprenons de ces exhortations combien le caractère de Christ dans les saints et la vie pratique qu'il mène sont étroitement liés. Le caractère que nous revêtons doit affecter la vie que nous vivons et être exprimé dans nos paroles et dans nos actes. Versets 18 à 21. Christ exprimé dans le cercle familial. Ces exhortations pratiques sont en rapport avec les relations naturelles établies par Dieu, épouse, mari, enfant et père. Si le christianisme nous introduit dans des relations au-dessus des relations de la terre, il ne met pas de côté les relations naturelles tant que nous sommes encore dans le corps. Elles ont été instituées par Dieu, approuvées par le Seigneur et ont à être respectées par le chrétien. L'homme déchu a abusé de ses relations. Le chrétien est enseigné sur la manière de les maintenir selon la pensée de Dieu, de sorte qu'il y ait dans la famille une expression des excellences du Christ, la soumission, l'obéissance, l'amour et la grâce, qui ont marqué son chemin sur la terre. Versets 18 à 21. Citation de l'Écriture. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, afin qu'ils ne soient pas découragés. Fin de citation. Les épouses chrétiennes sont exhortées à reconnaître l'autorité de leur mari par la soumission. Cela seul est bienséant chez celles qui professent se soumettre au Seigneur. Se soumettre dans le Seigneur donne de la force pour appliquer l'exhortation tout en veillant à ce que la soumission ne dégénère pas en un consentement du mal. Les maris doivent veiller à aimer leurs épouses, et ainsi, au lieu de se laisser aller à quelque aigreur, ils exprimeront le caractère de Christ en exerçant l'autorité dans un esprit d'amour. Les enfants doivent obéir à leurs parents en toutes choses, non pas simplement pour être agréables au cercle de la famille, mais pour être agréables au Seigneur. En marchant dans l'obéissance, ils manifestent quelque chose du beau caractère de Christ qui, dans les jours de sa chair, était soumis à ses parents. Luc 2, verset 51. Les pères doivent veiller à ne pas affirmer leur autorité de manière arbitraire pour ne pas s'aliéner l'affection de leurs enfants par quelque punition injuste, ni le décourager en relevant ses fautes inutilement. Ils doivent chercher à montrer la sagesse parfaite de Christ qui a su corriger ses disciples tout en conservant leur affection. Luc 22, versets 24 à 30. Ces exhortations supposent un foyer chrétien où est maintenue toute autorité juste, mais dans la sujétion au Seigneur, et donc exercée d'une manière qui est agréable au Seigneur, dans un esprit d'amour. Nous sommes arrivés à ces exhortations spéciales adressées au cercle de la famille à travers les exhortations adressées au cercle chrétien. Si nous nous comportons bien dans le cercle chrétien, si nous cherchons les choses d'en haut, si nous mortifions les membres de la chair, si nous avons pratiquement dépouillé le vieil homme et revêtu le nouvel homme, et si nous sommes ainsi marqués par la grâce, l'amour et la paix du Christ, alors nous serons prêts à vivre correctement les relations du cercle de la famille. Néanmoins, la chair est encore en nous. C'est pourquoi chacun est exhorté de manière à se fortifier à l'égard de ce en quoi il est susceptible de manquer. La chair de la femme peut, à certains moments, se rebeller contre l'autorité de l'homme. Elle est donc exhortée à se soumettre. L'homme peut plus facilement que la femme manquer d'affection. Il est donc exhorté à aimer. Les enfants sont enclins à faire leur propre volonté. Ils sont donc avertis d'obéir. Le père peut agir de manière arbitraire. Il est donc averti de ne pas provoquer ses enfants. Combien sera heureuse la maison où la soumission de la femme est réalisée dans le Seigneur, où l'autorité du mari est exercée dans l'amour, où les enfants obéissent pour plaire au Seigneur et où le père agit avec la sagesse de Christ. Versets 22 à 25 et verset 1 du chapitre 4. Christ exprimé dans le cercle social. On remarquera que les premières relations dont l'apôtre parle sont celles qui ont existé au jardin d'Éden, mari et femme. Puis nous arrivons aux relations apparues après la chute, les enfants et les parents. Enfin, nous arrivons à des relations dont nous n'entendons parler qu'après le déluge, les serviteurs et les maîtres. Genèse 9, verset 25. Il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Versets 22 à 25 et premier verset du chapitre 4. Citation de l'Écriture. Esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, ne servant pas sous leurs yeux seulement, comme voulant plaire aux hommes, mais en simplicité de cœur, craignant le Seigneur. Quoi que vous fassiez, faites-le de cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que du Seigneur vous recevrez la récompense de l'héritage. Vous servez le Seigneur Christ. Car celui qui agit injustement recevra ce qu'il aura fait injustement, et il n'y a pas d'acception de personne. Maître, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître dans les cieux. Fin de citation. Apparemment, l'existence de maître et d'esclave n'était pas envisagée dans l'ordre de la création. Ceci étant, on pourrait penser que le christianisme aurait entièrement ignoré, voire interdit ces institutions parmi les hommes. Ce n'est cependant pas le cas. Le christianisme n'approuve ni ne condamne l'esclavage, car cela ne fait pas partie du travail de la grâce de se mettre à changer l'état du monde et de la société. Son grand objectif est de tirer un peuple hors du monde vers Christ en l'amenant dans des relations nouvelles et célestes. Toutefois, les chrétiens qui se trouvent dans ces différentes positions sociales sont instruits sur la façon d'agir pour y exprimer quelque chose du caractère de Christ. Les esclaves chrétiens ont à s'acquitter de l'obéissance à leur maître, non plus pour s'en faire bien voir, ou pour se plaire à eux-mêmes ou aux autres, mais en ayant le cœur gouverné par le seul désir de plaire à celui dont il est écrit « Le Christ n'a pas cherché à plaire à lui-même ». Que les tâches à faire soient banales ou ingrates, elles doivent être faites comme pour le Seigneur. Ainsi, quoique l'esclave soit esclave d'un homme, l'esclave chrétien sert le Seigneur, et servant le Seigneur, il sera récompensé par le Seigneur. Dans le jour futur des récompenses, sinon déjà dans le présent, il sera démontré qu'il n'y a pas d'acception de personne avec le Seigneur. Celui qui fait le mal, qu'il soit maître ou esclave, recevra selon le mal qu'il a fait. Les maîtres doivent donc agir envers leurs esclaves dans la crainte du Seigneur, sachant qu'ils ont un maître dans le ciel. Ce faisant, ils donneront à leurs esclaves ce qui est juste et équitable.